Chapitre 9. Les résultats. Les champs sont blancs pour la moisson. Contenu du chapitre. Jéhovah fait croître les graines de la vérité du royaume. Paragraphe 1 et 2, question A. Pourquoi les disciples sont-ils perplexes? Question B. De quelle sorte de moisson Jésus parle-t-il? Les disciples sont perplexes. Jésus vient de leur dire « Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. » Ils ont beau regarder dans la direction que Jésus leur indique, tout ce qu'ils voient ce sont des champs, non pas blancs mais verts, de la couleur des jeunes pousses d'orge. La moisson, s'interroge-t-il probablement, mais elle n'aura pas lieu avant plusieurs mois. Jean 4, verset 35. En fait, les paroles de Jésus ne sont pas à prendre au sens propre. Il pense à une moisson spirituelle, une moisson d'humains, à propos de laquelle il veut enseigner à ses disciples deux idées importantes. Lesquelles? Revenons sur le récit. Un appel à l'action et une promesse de joie. Paragraphe 3, question A. Qu'est-ce qui a peut-être amené Jésus à dire « Les champs sont blancs pour la moisson » Question B. Comment Jésus a-t-il précisé de quoi il parlait? Cette conversation entre Jésus et ses disciples s'est déroulée à la fin de l'an 30, près de la ville samaritaine de Sichar. Pendant que ses disciples étaient allés à la ville, Jésus est resté à côté d'un puits où il a parlé à une femme qui a vite saisi toute l'importance de ses enseignements. Au retour des disciples, la femme s'est dépêchée d'aller rapporter à ses voisins les vérités étonnantes qu'elle venait d'entendre. Ses paroles ont fait une telle impression qu'une foule s'est précipitée vers le puits pour rencontrer Jésus. C'est peut-être en voyant arriver au loin, au-delà des champs, ce groupe de Samaritains, que Jésus a déclaré « Regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson ». La note ajoute « Il est possible que Jésus ait dit des champs qu'ils étaient blancs, par allusion aux robes blanches que portaient peut-être les nombreux Samaritains qu'ils voyaient approcher. » Fin de la note. Puis, pour préciser qu'il parlait d'une moisson spirituelle, il a ajouté « Le moissonneur amasse du fruit pour la vie éternelle. » Jean 4, versets 5 à 30 et 36. Paragraphe 4, question A. Quelles sont les deux idées importantes que Jésus a enseignées à propos de la moisson? Question B. À quelles questions allons-nous répondre? Quelles sont les deux idées importantes que Jésus a enseignées à propos de la moisson spirituelle? Premièrement, l'œuvre est urgente. En disant « les champs sont blancs pour la moisson », Jésus invitait ses disciples à agir sans tarder. Il a même ajouté « déjà, le moissonneur reçoit un salaire ». Autrement dit, la moisson avait déjà commencé. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Deuxièmement, les ouvriers sont joyeux. Semeurs et moissonneurs se réjouissent ensemble, a dit Jésus. Jean 4, versets 35 et 36. De même qu'il a dû être heureux de voir que bon nombre des Samaritains eurent foi en lui, de même ses disciples connaîtraient une grande joie à travailler de tout cœur à la moisson. Jean 4, versets 39 à 42. Cet épisode du premier siècle revêt un intérêt particulier pour nous, car il illustre ce qui se passe de nos jours, alors que la plus vaste moisson spirituelle de tous les temps est en cours. Quand cette moisson a-t-elle débuté? Qui y participe? Quels en sont les résultats? Le roi dirige la plus grande moisson de tous les temps. Paragraphe 5, question. Qui dirige la moisson mondiale? Et comment la vision de Jean indique-t-elle que l'œuvre est urgente? Dans une vision donnée à l'apôtre Jean, Jéhovah a révélé qu'il a chargé Jésus de diriger une moisson mondiale. On lit en Révélation 14, versets 14 à 16, « Et j'ai vu et regardé un nuage blanc, et sur le nuage était assis quelqu'un de semblable à un fils d'homme, avec une couronne d'or sur sa tête et une faucille aiguisée dans sa main. Et un autre ange est sorti du temple sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur le nuage, « Mets ta faucille et moissonne, parce que l'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est tout à fait mûre. » Et celui qui était assis sur le nuage a fait passer sa faucille sur la terre, et la terre a été moissonnée. Dans cette vision, Jésus apparaît coiffé d'une couronne et portant une faucille. La couronne d'or sur sa tête signale qu'il est roi. La faucille aiguisée dans sa main, qu'il est aussi le grand moissonneur. En faisant dire à un ange que la moisson de la terre est tout à fait mûre, Jéhovah souligne que l'œuvre est urgente. Effectivement, l'heure est venue de moissonner, il n'y a donc pas de temps à perdre. Quand Dieu commande « Mets ta faucille », Jésus fait passer sa faucille et la terre, sa population, est moissonnée. Cette vision fascinante confirme que les champs sont blancs pour la moisson. Mais elle permet également de savoir à quel moment la moisson mondiale a débuté. Paragraphe 6, question A. Quand l'époque de la moisson a-t-elle débuté? Question B. Quand la moisson de la terre, proprement dite, a-t-elle commencé? Expliquez. Puisque la vision de Jean en Révélation chapitre 14 montre Jésus, le grand moissonneur, coiffé d'une couronne, verset 14, c'est que son intronisation en 1914 a déjà eu lieu. L'ordre de moissonner vient ensuite, verset 15. Dans la parabole de la moisson du blé, on voit les événements s'enchaîner dans le même ordre. Comme Jésus a précisé « la moisson, c'est l'achèvement d'un système de choses », on en déduit que l'époque de la moisson et l'achèvement de ce système de choses ont débuté en même temps, en 1914. La récolte proprement dite a démarré plus tard, à l'époque de la moisson. Matthieu 13, versets 30 et 39. Avec le recul, nous comprenons que cela s'est passé quelques années après l'intronisation de Jésus. De 1914 au début de 1919, Jésus a d'abord accompli une œuvre de purification parmi ses disciples oints. Puis, en 1919, la moisson de la terre a commencé. Jésus s'est immédiatement servi de l'esclave fidèle qu'il venait d'établir pour faire comprendre à nos frères le caractère à la fois urgent et important de la prédication. Voyons comment. Paragraphe 7, question A. Quel examen a aidé nos frères à discerner l'importance de la prédication? Question B. À quoi nos frères et sœurs ont-ils été encouragés? En juillet 1920, on lisait dans l'édition anglaise de la Tour de Garde « À l'examen des Écritures, il apparaît clairement que l'Église a reçu l'immense privilège de communiquer un message au sujet du royaume. Par exemple, l'examen des paroles prophétiques d'Isaïe a permis aux frères de se rendre compte que la bonne nouvelle du royaume devait être annoncée dans le monde entier. Comment accomplirait-il cette œuvre? Ils n'en avaient pas la moindre idée, mais ils comptaient sur Jéhovah pour les guider. » On lit en Isaïe 59, verset 1. Voyez, la main de Jéhovah n'est pas devenue trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas devenue trop pesante pour entendre. L'importance de la prédication étant mieux comprise, on a encouragé les frères et sœurs à redoubler d'efforts dans cette activité. Avec quel résultat? Paragraphe 8, question. Quelles sont les deux idées que nos frères avaient saisies en 1921 à propos de la prédication? Dans son numéro de décembre 1921, l'édition anglaise de la Tour de Garde signalait « Cette année a été la meilleure de toutes. En 1921, le message de la vérité a été entendu par plus de personnes que durant n'importe quelle année précédente. » Elle ajoutait « Il reste encore beaucoup à faire. Accomplissons cette œuvre avec joie. » Remarquez que les frères avaient saisi les deux idées importantes que Jésus avait enseignées à ses disciples à propos de la prédication. L'œuvre est urgente et les ouvriers sont joyeux. Paragraphe 9, question A. Quelle réflexion la Tour de Garde a-t-elle faite en 1955 à propos de la moisson et pourquoi? Question B. Quel accroissement du nombre des proclamateurs a-t-on observé au cours des 50 dernières années? Au cours des années 1930, quand on a eu compris qu'une grande foule d'autres brebis accepterait le message du royaume, l'activité de prédication s'est encore intensifiée. De 41 000 en 1934 Le nombre des proclamateurs a alors bondi à 500 000 en 1953. Commentaire de la tour de garde du 1er mai 1955. C'est l'esprit de Jéhovah et la puissance de sa parole qui interviennent dans cette moisson mondiale. Des images éloquentes pour annoncer le résultat de la moisson. Paragraphes 10 et 11. Question. Dans la parabole du grain de moutarde, quels aspects du développement du grain sont mis en évidence? Jésus a annoncé le résultat de la moisson dans ses exemples sur le royaume. Considérons deux de ces paraboles pittoresques, celle du grain de moutarde et celle du levain. Nous verrons en particulier comment elles se sont accomplies au temps de la fin. La parabole du grain de moutarde. Un homme plante un grain de moutarde, ce grain pousse jusqu'à devenir un arbre dans lequel les oiseaux viennent s'abriter. On lit en Matthieu 13, versets 31 et 32. Il leur proposa un autre exemple en disant « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères et il devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent loger dans ses branches. » Quels aspects du développement du grain cet exemple met-il en évidence? Premièrement, l'ampleur de la croissance est stupéfiante. La plus petite de toutes les semences devient un arbre ayant de grandes branches. Marc 4, versets 31 et 32. Deuxièmement, la croissance est certaine. Lorsque le grain a été semé, il monte. Jésus ne dit pas qu'il montera peut-être. Il précise bien, il monte. Son développement est irrésistible. Troisièmement, l'arbre attire des visiteurs à qui il fournit un abri. Les oiseaux du ciel viennent et peuvent loger sous son ombre. Comment ces trois aspects se retrouvent-ils dans la moisson moderne? Paragraphe 12. Question. Quel parallèle peut-on établir entre la moisson et la parabole du grain de moutarde? Premièrement, ampleur de la croissance. La parabole souligne la diffusion croissante du message du royaume et le développement de la congrégation. Depuis 1919, des ouvriers zélés sont rassemblés dans la congrégation chrétienne rétablie. Au départ, ils étaient bien peu, mais leur nombre a augmenté rapidement. Pour tout dire, cet accroissement entre le début du XXe siècle et aujourd'hui a été prodigieux. Deuxièmement, certitude. La croissance de la congrégation est irrésistible. Quelle que soit l'opposition que les ennemis de Dieu ont pu entasser sur elle, comme autant de couches rocailleuses, la petite graine a continué de grandir, écartant tous les obstacles. Troisièmement, abri. Les oiseaux du ciel qui viennent loger dans l'arbre représentent les millions de personnes sincères issues de près de 240 pays et territoires qui ont accepté le message du royaume et sont devenus membres de la congrégation. Là, elles reçoivent protection, consolation et nourriture spirituelle. Paragraphe 13. Question. Quels aspects de la croissance la parabole du levain met-elle en évidence? La parabole du levain. Une femme mélange un peu de levain à de la farine et le levain fait fermenter toute la masse. On lit en Matthieu 13, verset 33. Il leur donna un autre exemple. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans trois grandes mesures de farine, jusqu'à ce que toute la masse ait fermenté. Quels aspects de la croissance cette parabole met-elle en évidence? Voyons en deux. Premièrement, la croissance provoque une transformation. Le levain se répand jusqu'à ce que toute la masse est fermentée. Deuxièmement, la croissance est totale. Le levain fait fermenter les trois grandes mesures de farine, autrement dit, toute la masse. Comment ces deux aspects se retrouvent-ils dans la moisson moderne? Paragraphe 14. Question. Quel parallèle peut-on établir entre la moisson et la parabole du levain? Premièrement, transformation. Le levain représente le message du royaume, et la farine, les humains. De même que le levain modifie la farine, de même, le message du royaume modifie le cœur des personnes qui l'acceptent. Deuxièmement, totalité. La diffusion du levain correspond à la diffusion du message du royaume. Le levain se répand dans la pâte jusqu'à envahir toute la masse. Pareillement, le message s'est répandu jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Acte 1, verset 8. Cet aspect de la parabole indique également que le message se répandra même dans les pays où notre œuvre est interdite et où nos activités passent souvent inaperçues. Paragraphe 15, question. Comment Isaïe 60, versets 5 et 22 s'est-il réalisé? Environ 800 ans avant que Jésus n'énonce ses paraboles, Jéhovah, par l'intermédiaire d'Isaïe, avait déjà fait prédire en termes mémorables l'ampleur que prendrait la moisson et la joie qu'elle causerait. Par cette prophétie, il annonçait que des gens venant de loin afflueraient vers son organisation. À une femme qui correspond aujourd'hui au reste des chrétiens oints sur la terre, il promettait « Tu verras, et à coup sûr, tu deviendras radieuse. Oui, ton cœur frémira et se dilatera, car vers toi se dirigera l'opulence de la mer. Les ressources des nations viendront vers toi. » Isaïe 60, versets 1, 4, 5 et 9. C'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui. Les chrétiens de longue date rayonnent de joie à la pensée que la poignée de proclamateurs de leur pays sont devenus des milliers. Pourquoi tous les serviteurs de Jéhovah peuvent se réjouir? Paragraphes 16 et 17, question. Quelle est l'une des raisons pour lesquelles le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble? Rappelons que Jésus a dit à ses apôtres, « Le moissonneur amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. » Jean 4, verset 36. Quelle raison avons-nous de nous réjouir ensemble? Il y en a au moins trois. Premièrement, nous nous réjouissons de voir l'action de Jéhovah dans la moisson. Lorsque nous prêchons, nous semons. Lorsque nous aidons quelqu'un à devenir disciple de Christ, nous moissonnons. Dans les deux cas, nous éprouvons tous une joie profonde à admirer comment, grâce à Jéhovah, la semence germe et grandit. Marc 4, versets 27 et 28. Certaines des graines que nous semons germent plus tard et sont moissonnées par d'autres. Peut-être avez-vous fait le même constat que Joanne, une sœur de Grande-Bretagne baptisée depuis 60 ans. Il m'arrive de rencontrer des personnes qui me disent que, des années auparavant, j'ai planté une graine dans leur cœur en leur donnant le témoignage. Sans que je le sache, d'autres témoins ont étudié avec elles par la suite et les ont aidés à devenir des serviteurs de Jéhovah. Quelle joie de savoir que la graine que j'ai plantée a poussé et a été moissonnée. On lit en 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu faisait croître, si bien que ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. »
Lecture de l'encadré, Jéhovah l'a rendu possible. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Luc 18, verset 27. Plus d'un parmi nous a vérifié cette affirmation de Jésus. Les adversaires ont eu beau faire, ils n'ont pu nous empêcher d'accomplir l'œuvre de prédication puisque nous avons le soutien de Jéhovah. Zacharie Elegbe, 66 ans, baptisé en 1963, se rappelle comment une interdiction qui a frappé nos activités au Bénin a tourné à l'avantage des frères.
En 1976, alors que nous étions 2300 proclamateurs, notre œuvre a été interdite. Et le gouvernement a ordonné que cela soit annoncé à la radio dans toutes les langues locales. C'était du jamais vu. À l'époque, il y avait des émissions de radio en seulement 5 langues, alors qu'on en parle plus de 60 au Bénin. Du coup, quand l'annonce a été diffusée, des milliers de personnes qui vivaient dans des régions reculées ont entendu parler de nous pour la première fois. ils se sont demandé qui étaient les témoins de Jéhovah et pourquoi on les interdisait. Plus tard, lorsque nous avons prêché dans ces endroits, beaucoup ont tout de suite accepté la vérité.
Il y a aujourd'hui plus de 11 500 témoins au Bénin. Maria Zinich, 74 ans, baptisée en 1957.
Quand j'avais une douzaine d'années, toute notre famille a été exilée d'Ukraine en Sibérie, Russie. En dépit de tous les efforts du gouvernement de l'Union soviétique pour nous réduire au silence, nous étions de plus en plus nombreux. Cette croissance, malgré une opposition féroce, m'a convaincue que c'est l'œuvre de Jéhovah. Personne ne peut l'arrêter.
Une autre Maria, 73 ans, baptisée en 1960, a fait cette remarque.
En déportant nos frères en Sibérie, le gouvernement a permis à beaucoup de personnes isolées d'entendre la vérité.
Jesus Martin, 77 ans, baptisé en 1955, se souvient.
Quand j'ai connu la vérité, il y avait 300 témoins en Espagne. En 1960, une répression brutale s'est abattue sur nous. Le gouvernement a ordonné à la police de faire disparaître les témoins de Jéhovah. À l'époque, nous avions du mal à voir comment nous pourrions un jour prêcher la bonne nouvelle dans tout le pays. Tout semblait se dresser contre nous. Mais aujourd'hui, nous sommes près de 111 000. Le fait d'avoir vu l'accroissement triompher de l'opposition renforce ma conviction que rien n'est impossible quand on a Jéhovah à ses côtés.
Paragraphe 18. Question. Quelle raison de se réjouir 1 Corinthiens 3, verset 8 donne-t-il? Deuxièmement, nous restons joyeux en raison de ces paroles de Paul. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. 1 Corinthiens 3, verset 8. La récompense dépend du labeur, non des résultats de ce labeur. Voilà qui est rassurant pour ceux qui prêchent dans des territoires peu productifs. Du point de vue de Dieu, chaque témoin qui sème de tout cœur porte beaucoup de fruits et a donc tout lieu de se réjouir. Jean 15, verset 8. Paragraphe 19, question A. Quel rapport la prophétie de Matthieu 24, verset 14 a-t-elle avec notre joie? Question B. Que ne devons-nous pas oublier, même si nous ne réussissons pas personnellement à faire de disciples? Troisièmement, nous nous réjouissons parce que notre œuvre réalise une prophétie. Qu'a répondu Jésus quand ses apôtres lui ont demandé « Quel sera le signe de ta présence et de l'achèvement du système de choses ?» Il a répondu que l'un des éléments de ce signe serait une œuvre mondiale de prédication. Était-il question ici de faire des disciples? Non. Il a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée en témoignage. » Matthieu 24, versets 3 et 14. C'est donc la prédication, l'action de semer, qui constitue un aspect du signe. Même si nous ne réussissons pas à faire de disciples, par notre prédication, nous rendons témoignage. La note ajoute, « Les premiers étudiants de la Bible avaient déjà saisi cette vérité importante. Et voici ce qu'on lisait dans la tour de garde du 15 novembre 1895. Même si la quantité de blé engrangé est faible, au moins est-il possible de rendre un abondant témoignage à la vérité. Tous peuvent prêcher l'Évangile. » Fin de la note. Ainsi, quelle que soit la réaction des gens, nous participons à l'accomplissement de la prophétie de Jésus et avons l'honneur d'être des compagnons de travail de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Quelle excellente raison de nous réjouir. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Paragraphes 20 et 21. Question A. Comment les paroles de Malachie 1, verset 11 s'accomplissent-elles? Question B. Qu'êtes-vous déterminé à faire et pourquoi? Au 1er siècle, Jésus a aidé ses apôtres à saisir le caractère urgent de la moisson. À partir de 1919, il a fait de même avec ses disciples de l'époque moderne. Ceux-ci ont réagi en intensifiant leurs activités. L'œuvre de la moisson s'est alors révélée irrésistible. Comme annoncé par le prophète Malachi, la prédication s'effectue aujourd'hui du lever du soleil jusqu'à son coucher. Malachi 1, verset 11. Oui, du levant au couchant, d'est en ouest, partout sur terre, semeurs et moissonneurs travaillent et se réjouissent ensemble. Et du lever au coucher du soleil, du matin au soir, toute la journée, c'est un sentiment d'urgence qui nous anime. Lorsque nous faisons le bilan des 100 dernières années, qui ont vu une poignée de serviteurs de Dieu devenir une nation forte, nous sentons notre cœur frémir de joie. Que cette joie et notre amour pour Jéhovah, le maître de la moisson, nous incitent tous à continuer de participer jusqu'au bout à la plus grande moisson de tous les temps. Luc 10, verset 2. Le royaume est-il réel à vos yeux? Qu'a accompli le royaume en rapport avec la moisson spirituelle? Comment les paraboles du grain de moutarde et du levain vous encouragent-elles à accomplir votre ministère? Quelle raison avez-vous de vous réjouir dans le ministère?
Lecture de l'encadré. Comment deux tracts ont touché deux cœurs en Amazonie. Antonio Simoes, un fidèle ancien de 91 ans, se rappelle avec émotion comment son père et son oncle ont trouvé la vérité grâce à deux tracts. « Voulez-vous connaître l'histoire ? » demande-t-il un jour à un couple de visiteurs. « Avec plaisir, » répondent-ils. Le regard bienveillant d'Antonio s'éclaire et le vieil homme s'assoit en souriant pour entamer son récit. « Mon père s'appelait Zeno. Il était pasteur baptiste. En 1931, en visite chez l'une de ses ouailles, au fin fond de la forêt amazonienne, il a remarqué deux tracts bibliques. La femme les avait trouvés au temple, mais elle ne savait pas qui les avait laissés là. L'un parlait de l'enfer, l'autre de la résurrection. Mon père a été touché par leur contenu. Il a tout de suite pensé à son beau-frère Guilherme, qui lui avait souvent dit « Je ne crois pas à l'enfer de feu. Un dieu d'amour ne peut pas avoir créé un endroit comme ça. » Impatient de lui montrer les tracts, papa a sauté dans sa pirogue et pagayé 8 heures jusqu'à Manakiri, un village pas très loin de Manos où vivait Guilherme. Après avoir examiné les tracts, mon père et mon oncle ont dit tous les deux « C'est la vérité ». Et ils ont écrit à la filiale du Brésil pour demander des publications. Mon père a démissionné de sa charge de pasteur, et ils se sont mis à prêcher dans cette région isolée. Le message de la Bible a reçu un tel accueil que moins d'un an plus tard, il y avait une congrégation à Manakiri. Très vite, 70 villageois ont assisté aux réunions. C'était la plus grosse congrégation du Brésil. Antonio marque une pause avant de demander « Alors, ce n'est pas extraordinaire la façon dont le message du royaume a pénétré en Amazonie ? Qui dira le contraire ? Deux graines minuscules jetées au hasard, deux tracts, ont germé dans l'immense forêt amazonienne pour aboutir à l'éclosion d'une congrégation florissante. Et aujourd'hui, la vénérable congrégation de 83 ans de Manakiri n'est plus seule. L'état de l'Amazone en compte 143.
Lecture de l'encadré, l'infime est devenu une nation forte. Le petit deviendra un millier et l'infime une nation forte. Moi, Jéhovah, j'accélérerai cela en son temps. Isaïe 60, verset 22. Comment cette prophétie s'est-elle réalisée? Quel effet son accomplissement dans le monde entier a-t-il sur des témoins de longue date? Börje Nilsson, 84 ans, baptisé en 1943.
Je me souviens d'un frère Wain qui était colporteur dans les années 1920. Quand il a reçu pour territoire presque la moitié de la Suède, docilement, il s'est mis à prêcher. Son travail et celui d'autres fidèles a été récompensé, et ce n'est rien de le dire. Aujourd'hui, nous sommes plus de 22 000 proclamateurs. Je ne suis plus tout jeune, mais je veux continuer d'obéir à Jéhovah en persévérant dans son service. Qui sait quelle surprise il nous réserve encore.
Étienne Esterhuis, 83 ans, baptisé en 1942.
Quand je regarde en arrière, je suis émerveillé. Le nombre des serviteurs de Jéhovah en Afrique du Sud est passé de 1500 en 1942 à plus de 94 000 aujourd'hui. Appartenir à une organisation aussi vaste affermit considérablement ma foi.
Keith Gaydon, 82 ans, baptisé en 1948.
Le fait d'avoir vu le nombre de proclamateurs en Grande-Bretagne passer de 13 700 en 1948 à près de 137 000 aujourd'hui me convainc que c'est l'œuvre de Jéhovah. Humainement, c'était impossible. Mais Jéhovah est celui qui fait des prodiges.
Exode 15, verset 11. Ulrich Krolop, 77 ans, baptisé en 1952.
Après la Seconde Guerre mondiale, les congrégations d'Allemagne ont été revigorées par le dynamisme des témoins qui avaient enduré la persécution nazie. Les gens avaient besoin de consolation et nous pouvions la leur apporter sans retenue car nous n'avions pas participé à cette guerre terrible. Au cours des 60 années écoulées, j'ai vu comment l'Esprit de Dieu a guidé son peuple. À présent, nous sommes plus de 164 000 témoins. Quel résultat magnifique!
Maria Brinetskaya, 77 ans, baptisée en 1955.
Par crainte d'une arrestation, on m'a baptisée de nuit. Plus tard, mon mari a été déporté dans un camp de travail très loin, parce qu'il était témoin. J'ai continué à prêcher prudemment dans mon village, ici en Russie. Et plusieurs de mes voisins ont accepté la vérité. À l'époque, nous n'étions pas nombreux. Comme je suis heureuse qu'il y ait aujourd'hui plus de 168 000 témoins en Russie.
Kimiko Yamano, 79 ans, baptisée en 1954.
En 1970, quand j'ai appris que nous avions atteint les 10 000 proclamateurs au Japon, j'ai pleuré de joie et je me suis sentie poussée à renouveler à Jéhovah ma promesse de lui être fidèle toute ma vie. Imaginez mon bonheur maintenant que nous sommes plus de 216 000.
Daniel Odegun, 83 ans.
Quand je me suis fait baptiser en 1950, le Nigeria comptait 8 000 proclamateurs. À présent, nous sommes 351 000. Lorsque je vois tout ce monde aux assemblées, je suis très ému et je pense à Haggaï 2, verset 7. Jéhovah est vraiment en train d'ébranler les nations, et les choses désirables arrivent. Je continue à faire de mon mieux dans la prédication, parce que prêcher, c'est ma façon de dire merci à Jéhovah.
Carlos Silva, 79 ans.
Il y avait 5000 témoins au Brésil lorsque j'ai été baptisé, en 1952. Cette année-là, nous avons tenu une assemblée dans un gymnase de Sao Paulo. Sur le parking, il n'y avait que deux voitures. Un frère m'a montré le stade du Pacaembu juste à côté et m'a demandé « Tu crois que nous le remplirons un jour ?» Cela semblait impossible. Mais en 1973, le stade bondé a accueilli 94 586 personnes. Aujourd'hui, nous avons plus de 767 000 chers frères et sœurs. C'est merveilleux de voir cet accroissement.
Carlos Cazares, 73 ans.
En 1954, l'année de mon baptême, le Mexique comptait 10 500 proclamateurs. Le besoin était tel qu'on m'a nommé surveillant de circonscription à 21 ans. Quelle bénédiction d'avoir vu de mes propres yeux l'accomplissement d'Ésaïe 60, verset 22. il y a maintenant plus de 806 000 proclamateurs qui dirigent plus d'1 million d'études bibliques. C'est renversant.